Mon nom est Jonathan Saunier et je suis un musicien, un auteur-compositeur-interprète quand ça me tente et un wannabe concepteur sonore dans le milieu du théâtre. J'ai eu la chance de recevoir le prix Suzanne Cyr en 2020. Ce prix a été jumelé avec un stage qui s'est déroulé avec le Théâtre populaire d'Acadie, situé à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Afin de profiter de mon stage à 100%, j'ai décidé d'interviewer des gens du milieu du théâtre, de différentes sphères que j'ai rencontrées pendant mon année avec le TPA et d'enregistrer le tout sous forme de balado à écouter pour les futurs wannabe concepteurs sonores et tous ceux qui s'intéressent au milieu du théâtre. L'objectif des entrevues sera de voir comment chaque personne qui travaille dans le milieu du théâtre perçoit le rôle du concepteur, aussi quelles sont les qualités nécessaires afin d'être un bon concepteur sonore. Pour cet épisode, je reçois Alain Roy, directeur artistique et co-directeur général du Théâtre populaire d'Acadie.
Bien, bonjour, Alain Roy, je suis le directeur artistique et le co-directeur général du Théâtre populaire d'Acadie.
Tu n'as pas été directeur artistique toute ta vie. C'est nouveau, ça.
Ben oui, c'est nouveau d'être directeur artistique d'une compagnie. En fait, en près de 30-35 ans, c'est la première fois que j'ai un travail à temps plein.
OK. Puis avant
j'ai toujours été pigiste. J'étais principalement assistant metteur en scène et régisseur.
Okay.
En fait, je faisais la même chose au Québec que Ghislain Basque faisait en Acadie.
Okay.
J'ai travaillé principalement à Montréal. Et par la suite, quand je suis revenu ici en Acadie, je me suis mis à faire un peu de direction artistique.
Okay.
Et là, je commence à toucher la mise en scène aussi.
Avant même tout ce Montréal-là,
oui.
Okay, est-ce que t'as étudié en théâtre ou est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu as une formation?
Ben, j'ai une formation, oui. J'ai, okay. En fait, mes premières armes, c'est... j'ai commencé à 14-15 ans au Théâtre populaire d'Acadie parce que je suis originaire de Caraquet.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, je jouais dans ce temps-là des petits rôles. D'ailleurs, j'avais joué Hilarion dans Les Tentations de Saint-Antoine de Gustave Flaubert. Et c'était Hypocrite qui s'enfonce dans la solitude pour se livrer mieux au débordement de ses convoitises. Tu te prives de vin, de viande, des tuves esclaves, mais comme tu laisses ta chasteté t'offrir des parfums, des foules nues, des foules applaudissantes. Ta chasteté qu'une corruption plus subtile et ce mépris du monde, l'impuissance de t'aimer contre lui-même. Okay. Ça fait au-dessus de 40 ans, puis je m'en souviens encore.
Tu t'en souviens encore, tu l'avais pratiqué,
J'ai pratiqué. Okay. Puis ça s'est imprimé, ce texte-là m'est jamais sorti de la tête.
Okay.
Mais à cette époque-là, je faisais des petits rôles. Ça avait été mon plus grand, ça a presque été mon heure de gloire, mon plus grand rôle au TPA. Mais je déchirais les billets à l'entrée, je donnais un coup de nos accessoires, je faisais toutes sortes de choses.
Okay.
Et à un moment donné, quand j'ai fini le secondaire, là, je me suis dit, coudon, le théâtre, ça pourrait m'intéresser.
Ouais.
J'ai appliqué deux fois à l'université de Moncton, je ne suis pas allé parce que la première année, j'ai décidé qu'en sortant, j'allais faire une année sabbatique.
Okay.
Tu sais, moi, j'étais déjà en avant de mon temps parce que je pense que des jeunes font souvent ça. Maintenant, ils sortent du secondaire pour prendre l'année sabbatique.
Oui, oui.
Rien encore fait dans la vie, vraiment, au travail, mais
c'est pas
une sabbatique. Ouais.
C'est ça.
Mais j'ai quand même fait une tournée de théâtre avec le TPA cette fois-là.
Okay.
Et après ça, la deuxième année, je me suis réinscrit, mais là, je suis parti avec Jeunesse Canada Monde. J'ai fait un échange dans ce temps-là. Jeunesse Canada Monde, c'est avec des pays du tiers-monde. Moi, j'étais allé en Malaisie. J'ai passé 4 mois en Malaisie et 4 mois dans l'Ouest. Là, après 2 ans, je me suis réinscrit une troisième fois. Et là, je suis allé faire 2 ans au département d'art dramatique à Moncton. Et là, j'ai un prof qui me parlait de l'École nationale de théâtre à Montréal.
Mm.
Ils m'ont dit, pourquoi pas l'École nationale de théâtre? Puis je me suis aperçu que le jeu joué, c'était pas vraiment ce qui me... On dirait que j'étais pas là. Je m'intéressais à beaucoup plus ce qu'il y avait autour. Alors, je me suis inscrit à l'École nationale de théâtre en production. Il y a des sections à l'École nationale de théâtre. Il y a le jeu, l'interprétation. Il y a la mise en scène. Il y a l'écriture, il y a la production, il y a la scénographie, tout ce qui... Donc, production, ben, on touchait au son.
Au son, oui.
À l'éclairage, à la direction de production, la direction technique, la régie et l'assistance mise en scène.
Mm-hmm.
À un moment donné, moi, j'ai fait 2 ans. Je suis rentré directement en deuxième année parce que j'avais un petit background quand même de théâtre.
Ouais.
Et là, tu fais un peu, c'est un peu général. Puis à la dernière année, tu fais des productions et tu décides sur quoi tu veux plus te concentrer. Puis moi, il s'est avéré que c'était l'assistance à la mise en scène et la régie.
Oh.
J'aimais le travail de répétition. J'aimais le travail en salle de répétition avec les metteurs en scène.
Oui, oui, oui. Puis les concepteurs sonores.
Les concepteurs sonores.
Aussi.
Tous les concepteurs.
Tous les concepteurs. OK, c'est intéressant, ça.
Ouais.
OK.
Puis donc, j'ai travaillé près de 30 ans à Montréal dans... beaucoup de théâtre. J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène, metteurs en scène.
Oui.
Vraiment, j'étais choyé. Puis dans tout, pratiquement tous les théâtres. Et j'ai commencé dans les théâtres institutionnels, comme très rapidement au Théâtre du Nouveau Monde.
Mm-hmm.
Et en fin de carrière, je faisais des autogérés. Fait que j'ai commencé ça à l'envers. La plupart des gens, commencent par des autogérés, des petites compagnies, des... petite compagnie, ça n'enlève rien à la qualité. Là.
Ouais.
Et moi, j'ai comme fait le contraire.
Ah.
Puis, à un moment donné, je me suis aperçu que... des fois, je me faisais... J'ai enseigné aussi à l'École nationale de théâtre en production sur une période de 10 ans.
Mm.
Mais ça, à l'École nationale de théâtre, tous les enseignants sont des praticiens. Ce sont des gens qui travaillent dans le milieu. La seule personne permanente, c'est la personne qui dirige la section, comme la section de production.
Okay.
J'ai quand même fait 1 an d'adjoint à la direction de la section de production. Oui. Donc, tu continues à travailler dans le milieu. Ça peut occuper, je ne sais pas, 25% de ton temps, là, les 10 ans que j'ai fait. Là.
Oui, oui, oui.
Mais j'étais rendu à un point où je me faisais engager par des étudiants à qui j'avais enseigné.
Ah.
Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être le temps que je laisse ma place, là. Okay. Et il s'est mis à avoir des contrats ici en Acadie, des choses qui se sont pointées à moi. En 2004, en particulier, avec un spectacle qui s'appelle Ode à l'Acadie.
Ah, oui.
Où j'ai assisté René Cormier.
Okay.
Et il y a un autre gros spectacle que le TPA avait fait au village acadien qui s'appelait Les Défricheurs d'eau.
Oui.
Alors, je suis venu travailler, assister René Cormier sur Les Défricheurs d'eau et sur Ode. Puis ça m'a ramené ici. Et tranquillement, je me suis mis à faire moitié Montréal, moitié l'Acadie.
Oui.
Des tournées en Europe avec Ode à l'Acadie. Et puis là, finalement, je me suis dit, gars, je vais revenir. Vais revenir à mes sources.
Oui, oui, oui. Intéressant.
Oui.
Donc, à travers tout ça, là, on parle des défricheurs d'eau, puis on parle de Ode à l'Acadie.
Oui.
Puis là, tu m'as parlé aussi de grosses compagnies, petites compagnies.
Mm-hmm.
Le rôle du concepteur sonore dans ces quatre... je veux pas mettre ça en catégorie, là, mais ces différentes catégories sont quand même assez différentes. Dans le sens où ce que la musique dans Ode à l'Acadie est quand même en premier plan. La musique dans une pièce de théâtre, des fois, et parfois en premier plan, mais aussi en arrière-plan. Comment t'as trouvé ça, toi, de justement gérer peut-être cet aspect-là ou peut-être gérer le concepteur dans comme différents styles de production, si on veut? Est-ce qu'il y a comme des similitudes ou comme des différences quand vient le temps de gérer, mettons, un auteur-compositeur-interprète sur scène? Style, pour Ode à l'Acadie, je sais que c'est comme des reprises, là.
Ouais.
Mais tu vois un peu ce que je veux dire?
Oui.
La conception, oui. Le son dire, est différent.
Oui, bien... si on prend Ode à l'Acadie, c'est un spectacle musical.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est totalement autre chose qu'au théâtre. Même Les Défricheurs d'eau, qui est un spectacle à grand déploiement.
Uh-huh.
Mais il y avait une partie musicale. Puis après ça, toutes les autres pièces de théâtre, les pièces de théâtre plus, je dirais, conventionnelles, c'est-à-dire les comédiens, une prédominance du texte, puis où la musique ou les environnements sonores peuvent devenir un autre personnage, en quelque part. Mais ce que j'avais à faire à l'époque, c'était un travail d'assistant de metteur en scène, de
régisseur.
Donc, c'était la courroie qui véhicule toutes les informations. Donc,
OK, là, je comprends.
Mais ce que j'aimais beaucoup avec les concepteurs sonores, ce qu'ils apportaient au spectacle, c'était, il y avait... C'est soit le subconscient du texte, c'est tout ce qui sous-tend tension, joie, toutes sortes de et comme tu peux jouer à contrepoint de ça, ben c'est intéressant aussi le rôle que la musique peut jouer.
Oui.
Donc c'est la musique, et l'environnement sonore, c'est probablement un des premiers sens qu'on a à la naissance, et je dirais même dans le ventre de notre mère.
Ouais,
je veux dire, on entend quelque chose, ne serait-ce que ce son-là, dans ce liquide-là, puis tout.
Oui.
Je pense qu'assez rapidement, on perçoit, c'est un des premiers sens qu'on perçoit. Mm. Et quand on vient au monde, le son est quelque chose qui commence à nous habiter. Right. Donc, la puissance que ça peut avoir dans une écriture scénique, c'est-à-dire quand on traduit un texte de théâtre sur une scène, quand on le met en scène, ben ça peut être très puissant.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le travail des concepteurs sonores, ce qu'ils apportent. C'est un élément dans la toile, là, mais pour moi, c'est un élément qui peut aller nous chercher très profondément.
Mm-hmm. On parlait tantôt d'assistant metteur en scène.
Oui.
Tu vois. Puis, tu sais, après ça, il y a le metteur en scène. Là, j'ai eu ma rencontre avec Martin Bond.
Oui.
En tant qu'assistant, tu sais, ton rôle d'assistant, c'est quoi un assistant metteur en scène? Selon toi, je suis sûr que ça peut être sous différentes formes. Jusqu'à un certain point. Là.
Moi, j'aimais bien la partie... répétition, comme je te disais tout à l'heure. J'étais intéressé plus au côté, ce qu'on appelle en Europe, ils appellent ça le dramaturge.
Okay.
C'est celui qui peut faire les recherches sur un texte. C'est celui qui va aider le metteur en scène dans sa démarche, dans sa réflexion. Donc, moi, j'aimais beaucoup relancer les metteurs en scène sur certaines choses que je voyais, que je percevais. Il y a des assistants qui aimeront plus le côté technique, là.
Peut-être plus prendre des notes ou...
notes ou quand ça arrive à la technique, quand ça arrive à la partie régisseur, là, ils sont peut-être plus heureux parce qu'en salle de répétition, ils sont moins interpellés par ça.
Okay.
Mais moi, j'aimais beaucoup cet aspect-là de défrichage avec les comédiens, de direction d'acteurs et tout. C'est ce qui m'a amené... aujourd'hui, réellement, à plus être un directeur artistique.
C'est ça que j'allais dire, parce qu'il y a quand même une certaine recherche artistique avec le travail d'assistant metteur en scène que tu faisais avec le metteur en scène.
Oui, mais la direction artistique, maintenant, je te dirais... En fait, la direction artistique, c'est plus large.
Ouais.
C'est l'œil qui regarde un peu l'ensemble de la chose.
Oui.
Et moi, comme directeur artistique, je fais des choix. Je fais des choix d'engager telle personne parce que j'ai lu un texte et je me suis dit, ah, ce texte-là correspond à cette personne-là. Je pense qu'il va bien saisir puis il va bien monter ça.
Oui.
Puis à partir du moment où j'ai choisi le metteur en scène, on peut, avec le metteur en scène, proposer des concepteurs.
Right.
Lui va me dire, j'aimerais travailler avec telle personne. Moi, je peux dire, regarde, moi, je connais cette personne-là. Il me semble qu'avec ce texte-là, tu devrais voir. Puis là, on compose une équipe.
Ouais.
Et ensuite, et parallèlement à ça, on compose une équipe aussi, une distribution.
Ouais.
Alors là, le metteur en scène encore, moi, ce que je veux, c'est qu'il travaille avec des gens avec qui il veut travailler. Mais on peut discuter sur des choix de comédiens, comédiennes.
Ouais.
Et je me dis toujours que le metteur en scène, comme c'est lui qui sera en salle de répétition, moi, je ne serai plus là.
Mm-hmm.
C'est lui qui va vivre avec ces gens-là. C'est lui qui a le dernier choix, en quelque part.
Oui, okay.
Donc, moi, je fais des choix de personnes qui vont faire des choix. Parce qu'après ça, les concepteurs, le metteur en scène vont faire des choix. Mais, encore là, dans le mot direction artistique, il y a direction. Donc, un projet, tu peux engager un metteur en scène en disant... par exemple, il y avait une production qu'on a fait. J'ai approché un metteur en scène en lui disant, ce que j'aime dans ce texte-là, mm-hmm. c'est qu'il y a toute une dimension sociale, mais dans cette dimension sociale-là, il y a ces gens-là qui évoluent dans un environnement. Alors, j'aimerais ça qu'on perçoive le paysage. Donc, je vais donner des directions artistiques.
OK.
Et à partir de là, je peux dire... je vais donner des grandes lignes, en fait. Donc, sur cette production-là, en l'occurrence, la metteur en scène a décidé de travailler à partir de toiles d'artistes acadiens et des toiles de paysages, mais en prenant des détails ou des choses du genre. Et ça, c'était projeté à l'arrière. Donc, ça nous donnait un espèce de paysage.
Mais okay.
L'idée de prendre des toiles d'artistes acadiens n'est pas venue de moi, elle est venue de la metteur en scène. Mais l'idée de « gars, je voudrais sentir le paysage ».
Ouais.
Parce que les choses changent, les gens changent, puis tout, mais notre paysage, il reste le même. On est dans cet environnement-là. Cet environnement-là nous définit. Ça, c'est okay. des directions artistiques.
Okay. C'est vraiment comme... dans un sens, c'est le noyau. Jusqu'à un certain... Ben, pas nécessairement le noyau, mais comme, c'est comme si tu sèmes une graine, puis là, tout d'un coup, ça devient quelque chose de plus large.
Oui,
ça commence tout petit, puis là, ça...
Je propose un cadre...
Oui, puis
ce cadre-là, parce que je sais pas, moi, il a l'air plus moderne, ou il a l'air plus contemporain, ou il a l'air plus baroque,
ouais.
ça va avoir une influence sur le projet. Okay. En quelque sorte, c'est ça. C'est donner un peu le... Donner une impulsion, donner des grandes lignes, mais après ça, tu accompagnes le travail comme directeur artistique. Donc, le lien avec le concepteur à la direction artistique, il est... Il passe toujours, à partir du moment où la production commence, pour moi, comme directeur artistique, par le metteur en scène. Je n'irai jamais parler directement à un concepteur. Je vais toujours parler au metteur en scène. Parce que lui, c'est le maître à bord, à partir du moment où la production commence.
OK. Oui, je comprends. Chacun son rôle aussi.
Oui,
là. C'est
oui,
ça.
Oui, exactement.
C'est quand même important de respecter ça. Oui. Là.
Puis, okay. on va essayer aussi dans l'élaboration d'une équipe aussi, de mettre des gens ensemble qui vont bien travailler ensemble.
Oui.
C'est ce qu'on souhaite. Il faut oublier qu'il y a cette dimension-là. Oui. Le théâtre est essentiellement un travail d'équipe.
C'est ça. Donc, quand vient le temps de choisir un concepteur, soit à l'éclairage, même sonore, ça va être... Est-ce que c'est une bonne personne en termes de travail d'équipe ou une bonne personne qui réussit à bien communiquer ses idées?
Oui.
Ou même peut-être à se... Comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui est capable de dire, OK, j'ai une vision, les autres ont toutes une vision, mais moi, je suis capable de me plier aux visions des autres, puis je suis capable d'amener quelque chose de soit nouveau ou même de différent.
Les concepteurs, ceux qui travaillent sur un spectacle au niveau de la conception, puis tout, et c'est pas juste parce qu'il y a un concepteur sonore, mais il faut avoir de l'écoute. D'abord et avant tout.
Oui, l'écoute.
Donc, je veux dire, c'est comme tu saisis l'idée du metteur en scène, tu saisis... et si t'es bien capable de percevoir l'idée du metteur en scène et lui te propose des choses, peut-être que tu perçois assez bien son idée que tu es capable de lui proposer quelque chose qu'il t'a pas proposé, le surprendre, puis le surprendre à la bonne place. Parce que là, il se dit, ben oui, c'est encore, ça correspond beaucoup plus à mon idée de base que tu me proposes là. Donc, il faut avoir la qualité d'avoir une écoute. Il faut avoir des qualités artistiques, un bagage de... Ça se fait avec un bagage de connaissances, de vécu, mais aussi, il y a une partie de qu'est-ce qui est le talent dans tout ça? Qu'est-ce que tu as comme talent pour proposer des idées puis tout? Mais ça va avec ta sensibilité, ça va avec plein de choses qui t'appartiennent comme être humain.
Ouais.
Et je pense qu'un bon concepteur sonore doit... Quelque concepteur que ce soit sur une production, doit avoir premièrement une écoute à ce qui est proposé, une lecture du texte aussi, qui fait que toi, déjà, tu te mets quelque chose en tête, mais il faut que tu sois effectivement prêt à accepter les idées des autres, puis en faire comme une émulsion avec ça. Là.
Oui.
Quand tu mélanges des ingrédients, puis ça devient... Ça gonfle, ça prend de l'ampleur, ça gagne en richesse.
Oui, puis tout le monde va dans la même direction jusqu'à un certain point. Là, si on veut, on est un groupe ensemble qui va vers un même but qui est la pièce.
Oui. Puis c'est pas un auteur-compositeur, interprète oui. qui monte ses chansons puis qui va avoir un tel arrangement. Qui peut travailler avec un arrangeur, mais, oui. mais il a son idée de fête puis tout, puis il a sa couleur qu'il veut puis tout. Mm-hmm. Mais là, c'est tout des individus qui n'ont qu'un seul but, c'est de rendre ce projet-là
À terme.
À terme et ouais. le plus lui donner toute la richesse et la valeur que ce texte-là mérite. Là.
Oui.
Mm. Sur une production de théâtre.
Ça, c'est intéressant. Tu vois, ce qu'on vient de parler, on a parlé de qualité humaine, on a parlé de qualité artistique, techniquement. Puis c'est un sujet que j'aborde souvent avec toutes les invités, mais c'est quelque chose qui est nouveau pour moi jusqu'à un certain point parce que humaine puis artistique, je les comprends bien. Technique, l'entrée en salle et tout ce qui est comme remettre sa conception sonore. Toi, dans tout le cheminement que tu as fait, qu'est-ce que tu as souvent vu? On a parlé avec Jean-François des rubans. Il m'a parlé de CD. Avec Martin, on a parlé de Q-Lab. Dans ton vécu à toi, à travers tous les concepteurs sonores que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu as vu le plus souvent? Est-ce que c'est l'utilisation de Q-Lab, les CD, les bandes à rubans?
Quand j'ai touché au son,
oui.
Parce qu'on avait des cours de son
à l'École
nationale de théâtre, puis, on avait du très avancé, là, mais moi, j'étais pas très tiqué à ce niveau-là. Je pognais pas vraiment ces affaires-là.
Okay.
Je te dis, j'étais plus dans le texte, j'étais plus dans les...
Oui.
Mais on a commencé avec les Revox. Là.
OK.
Oh, la machine à ruban, puis...
C'est ça.
On faisait tous nos petits slides, on montait ça, on collait ça, puis t'avais une petite slide transparente pour... Il y a une petite lumière, un petit lecteur qui faisait que ta Revox arrêtait juste avant le cue.
Ah.
Puis, parce que des fois, il fallait setter ça à la main, là. Mais c'était... Puis il fallait que tu colles bien tes affaires parce que ça lâchait dans le milieu du show. Tes rubans, là, t'avais plus de bande sonore tout d'un coup. Il fallait que tu montes en vitesse, que tu colles ton truc avec ton... Mais oh, donc, okay. j'ai commencé avec la Revox. Ça, okay. ça veut dire que... Aussi, c'est... Ce qui est génial maintenant avec les outils qu'on a, oui. c'est non seulement toutes les capacités de texture qu'on peut faire du son qui sont... Mm-hmm. C'est magnifique le traitement qu'on peut faire, mais c'est qu'on peut le faire jusqu'à la dernière seconde.
C'est ça. Parce que est-ce que quand tu engages un concepteur sonore, tu t'attends à avoir une livraison soit sur maintenant, à ce jour, sur Q-Lab, ou c'est vraiment au choix du concepteur? Peut-être que ça varie avec... où la pièce est rendue, si c'est un laboratoire, puis qu'on va vous présenter une pièce à la fin du laboratoire, peut-être que le concepteur va juste partir ses cues lui-même, ou peut-être si on arrive à comme vraiment la pièce professionnelle prête à être comme envoyée sur une tournée, peut-être que le show va être sur Q-Lab.
Oui.
Comment tu
vois ça? Ben, entre autres, l'équipement qu'on a ici, nous, on travaille beaucoup au Théâtre populaire d'Acadie avec Q-Lab.
OK.
C'est sûr, c'est que ça permet de combiner aussi l'éclairage, le son, de faire un tout avec ça.
Okay.
Donc, c'est souvent ça qui est le plus à cause de sa maniabilité, à cause de ses je dirais que oui, c'est une question effectivement très technique.
Mm-hmm.
Mais c'est à cause de la facilité de travailler avec ça quand tu connais bien le programme.
Oui, là, c'est ça.
Ouais. Ça permet beaucoup plus de flexibilité. Là.
Exact. Donc, toi, quand tu viens à choisir, comme on expliquait tantôt, ton équipe, tu vas penser à un concepteur qui peut travailler avec ça jusqu'à un certain point.
Bien, on l'appuie.
Sinon, on l'appuie.
Là, okay. on a un technicien qui... Parce que le concepteur, lui, un coup que le spectacle va commencer puis qu'on va partir en tournée,
il sera plus là.
Ouais. Donc, on peut... On a, en l'occurrence, une production en préparation où la personne qu'on a approchée pour faire la conception sonore mm-hmm. et la musique n'est pas du tout familier avec ça, ne connaît pas le travail vraiment de studio,
mm-hmm.
le connaît pour l'avoir vu faire,
oui.
mais pas l'avoir fait, mais on ne lui demandera pas de le faire.
Ah, OK.
Donc, lui, son instrument, c'est le piano, l'accordéon,
oui.
c'est ce qu'on voulait. À ce moment-là, on va s'adapter, on va lui offrir la possibilité de travailler avec quelqu'un, on va aller chercher quelqu'un de studio qui va travailler avec lui,
okay.
qui va vraiment faire les enregistrements. Oui. Puis après ça, quand on va être arrivé en enchaînement technique avant la première, ben là, il y aura quelqu'un. C'est pas lui qui va faire ces manipulations-là. C'est le probablement que le régisseur qui va faire la tournée ou un technicien sera, sera dédié
à ce travail-là.
Technicien son. Oui, oui.
OK.
Donc, c'est pas un concepteur sonore. On veut pas qu'il soit un technicien de studio, là.
Ah, c'est intéressant, ça.
C'est intéressant qu'il puisse l'être parce qu'on a tout en... C'est comme un deux pour un, là.
Oui, oui, oui.
Mais c'est pas du tout... non, parce que si on veut aller chercher quelque chose de précis, et parce qu'on peut décider qu'une pièce de théâtre, écoute, l'instrument, c'est le violoncelle. Ouais. Ben, un violoncelliste, là, c'est pas un gars de studio, probablement.
Il y en a forte chance, mais là. C'est ça, il y en a.
Donc, on va s'adapter autour de ça.
OK. Ça, c'est intéressant. C'est un point que, que personne n'a abordé, à vrai dire, depuis le début des balados.
Ça. Ben, c'est au niveau de la direction artistique.
Ouais.
C'est des choix qui sont faits, qui déterminent effectivement qui va être sur l'équipe. Mais il ne faut pas que ce soit des contraintes. Il ne faut pas que la technique, en aucun moment, soit une contrainte. Puis ça, c'est à tous les niveaux au théâtre. Faut qu'on accompagne, faut qu'on soutienne, faut qu'on... Alors, c'est sûr que quand on va chercher un concepteur sonore qui maîtrise bien tous ces médiums-là, ben, c'est génial. Mais,
ouais.
Je veux dire, la conception sonore, le monde musical au théâtre, c'est vaste. Là.
Oui.
Ça peut être essentiellement des sons, des bruitages, ça peut être des musiques très pointues, ça peut être du repiquage de musique ancienne ou...
Ouais.
Donc, on ne peut pas se résumer à l'idée que c'est simplement
un gars de studio,
qui a du talent puis qui compose bien.
C'est ça. Oui, oui, oui.
C'est... Non.
Tu vois, ça, c'est intéressant. Ça, j'aime ça parce que ça justement ouvre la porte à... Ben, pas n'importe qui. Là. Je ne veux pas dire n'importe qui peut faire ça, mais ça ouvre la porte à justement la personne qui ne connaît pas nécessairement le côté peut-être technique, mais musicalement, ou... peut-être de manière sonore, il est très intéressant. Là. Donc, ces personnes-là peuvent travailler avec
le théâtre. Ou c'est aussi un instrument précis ou quelque chose
qui...
Je te dis.
Oui, un instrument inventé au pire. Tu sais.
Oui. Un quatuor. On veut travailler avec un quatuor.
Ouais.
Ben, ça accord, ben, on ne leur demande pas d'enregistrer leur affaire.
Okay. C'est sûr que là, après ça, il faut évaluer un budget en fonction.
Oui, exactement.
Puis ça, on va le voir plus tard dans les balados aussi. Là. Super, Alain, mais je pense que ça couvre pas mal toutes nos... ben, en tout cas, les trois points que je recherche avec chaque discussion.
Oui.
Côté humain du concepteur, côté technique et artistique. Puis en même temps, on découvre c'est qui Alain Roy. Puis, c'est quoi son parcours? Donc, merci beaucoup.
Ben, je te remercie. Mais je rajouterais quelque chose. Parce que quand tu parles du côté humain, puis du côté technique, puis tout, puis je le dis souvent, ça.
Oui.
Je t'ai peut-être déjà dit, là.
Oui.
Mais il y avait un comédien, un grand comédien avec qui j'ai eu la chance de travailler, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean-Louis Millette. Puis Jean-Louis Millette, il disait, je me souviens qu'il disait ça aux étudiants de l'École nationale de théâtre. Il dit qu'il y a une règle de 2/3 pour accepter un contrat. Est-ce que c'est un beau projet?
Okay.
Est-ce que c'est une belle équipe? Puis est-ce que c'est payant? Si tu en as 2/3, vas-y.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a le côté humain dans tout ça.
Ouais.
Mais tu te dis, quand on t'offre un contrat, là, pense à ton affaire. Tu te dis, c'est-tu payant? C'est-tu un beau projet? Ça m'allume-tu? C'est-tu une belle équipe avec qui je veux travailler? Il y a toujours des déceptions, quelque part, des choses du genre. Là. Mais si c'est un beau projet et c'est une belle équipe, que ce soit moins payant, là, tu vas quand même avoir le gaz qu'il faut pour continuer.
Oui.
Si c'est payant, puis si c'est une belle équipe, puis que le projet est plus moche, mais tu as encore quelque chose à te raccrocher dessus.
Ouais.
Moi, je trouve ça m'a suivi tout le temps.
C'est une belle
Je le dis souvent à ben du monde. Mais parce qu'on dit qu'il faut le côté humain, il faut le côté... Mais il n'y a pas juste ça.
Ouais.
Il faut travailler aussi. Il faut gagner sa vie. Fait que des fois, il faut peut-être faire des compromis sur certaines équipes. Mais c'est un maudit beau projet. Puis en plus, Chris, il paye. Fait que,
Regarde,
je vais y aller, puis ça va durer 6 mois, 4 mois, 3 mois, je sais pas. Mais je vais apprendre quelque chose, je vais avancer.
Ouais.
Puis plus tu avances à un moment donné aussi, plus tu peux... permettre peut-être des fois de faire des choix dans ta vie. Là. Mais au début, tu veux prendre beaucoup de choses. Mais fais quand même attention à ces choses-là. Faut pas que tu te retrouves malheureux parce que c'est une production où tu as une équipe avec qui tu t'entends pas pantoute. En plus, ils te payent pas pantoute. C'est un beau projet, là, mais mon... je suis malheureux.
C'est ça, là. Si t'as juste un guitare, c'est les trois, là.
C'est ça. J'ai trouvé que ça, c'était une...
C'est une belle règle. À... Ben, pas une règle, mais comme un... Pourquoi? Un barème ou un genre ouais. de...
Oui.
Ouais, ouais. ouais. Mais je pense que ça close super bien le balado.
Ben, écoute, moi, je te remercie beaucoup. Puis je trouve ça... écoute, t'as les qualités de base pour mm-hmm. moi, qui est la curiosité.
Ouais.
Déjà, en faisant ces balados-là, je trouve que c'est ce que tu... C'est ce que tu... Déjà, c'est ce que tu dis. Right. Et okay. moi, en plus, je peux le dire, t'as du talent. Ah, parce que j'ai entendu les choses que tu... que t'as faites. Fait que, écoute, c'est très bien. Je te félicite ben. Beaucoup pour tes balados.
Merci.
C'est, et comment t'as accueilli cette année aussi oui. Au Théâtre populaire d'Acadie avec le prix Suzanne Cyr. Ben, ça a été une année spéciale. On le sait, on vient de traverser une année spéciale pour tout le monde.
Oui.
Mais ça ne nous a pas empêché d'échanger, ça ne nous a pas empêché de... Et puis, c'est qu'on va se revoir.
Oui, certainement.
Oui.
Merci, Alain.
Merci beaucoup, Jonathan.
Yes.
Avant de clore ce balado, j'aimerais remercier mon invité, Alain Roy, et le Théâtre populaire d'Acadie. Et pour le prix Suzanne Cyr, merci à la Congrégation Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et à la Fondation ATFC pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. Le montage de ce balado fut réalisé à mon studio personnel à Moncton.